DW. Pulsation.
Kinshasa, une ville trépidante, une ville d'art. Une ville qui se prépare à abriter la deuxième biennale d'art moderne, Yango. Pour en parler, nous retrouvons aujourd'hui l'artiste congolais Sinzo Anza. Il s'agit de la deuxième partie de l'interview qu'il nous a accordée lors de son passage à Berlin en fin d'année dernière. Pour clôturer l'émission, nous reviendrons dans Coup de projecteur sur le début de l'opération Tempête du désert qui a mené au dénouement de la guerre du Golfe il y a de cela 21 ans. Mais tout d'abord, le mot du jour, milliardaire.
Le saviez-vous ?
Vous l'avez sûrement entendu. Selon l'ONG Oxfam, la fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu depuis le début de la pandémie de Covid-19 sa plus forte augmentation jamais enregistrée. Elle est passée de 5 000 milliards de dollars à 13 800 milliards. L'occasion pour Pulsation de revenir sur la signification et l'origine du terme « milliardaire ». Un milliardaire est donc une personne qui dispose d'un patrimoine d'une valeur atteignant au moins 1 milliard. En général, on parle de dollars américains. Le concept de milliardaire apparaît en Occident à la fin du 19e siècle. Auparavant, c'est la notion de multimillionnaire qui prévalait depuis le début du 18e siècle. C'est l'époque, en effet, de la montée du mercantilisme et du libéralisme, deux idéologies qui ont permis de décupler les profits de personnes privées. Jusqu'alors, c'était en effet plutôt les royaumes ou les pays qui étaient riches. Le premier milliardaire officiellement reconnu comme tel est l'américain John D. Rockefeller en 1916 qui avait fait fortune dans le pétrole. Depuis, le nombre de milliardaires n'a cessé d'augmenter en raison principalement du capitalisme florissant et de l'expansion de la bourse. Le magazine Forbes publie chaque année une liste des milliardaires en dollars du monde. Alors qu'en 2010, il y avait officiellement 1011 milliardaires en dollars dans le monde, on en compte aujourd'hui, 22 ans plus tard, plus de 3000. Un phénomène, il faut le noter, qui n'échappe pas à la domination masculine. En effet, seules 328 femmes étaient milliardaires en mars dernier, soit environ 11% du total. Pour une bonne part d'entre elles, il s'agit de riches héritières. Seules 17% se sont forgées leur fortune elles-mêmes, sachant que parmi les hommes, nombreux sont aussi ceux qui bénéficient d'un héritage pour figurer dans la liste des milliardaires. Concernant l'Afrique, le nombre de milliardaires du continent semble, lui, diminuer. On est passé de 23 à 18 ces quatre dernières années. Le Nigérian Aliko Dangote, spécialiste du ciment, reste en tête de liste avec un peu plus de 12 milliards de dollars. Bien loin, il est vrai, de l'américain Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui culmine, lui, à plus de 271 milliards de dollars. Une chose est sûre, les richesses ne sont pas redistribuées comme elles le devraient pour éradiquer la pauvreté. C'est pourquoi les appels à une taxation fiscale plus importante des riches et des grandes entreprises se font de plus en plus pressants. Pour illustrer notre mot du jour, je vous propose d'écouter une très belle version d'un classique de la chanson mandingue, Massani Sissé, qui raconte l'histoire de ce riche parvenu qui détourne la fiancée d'un pauvre pêcheur ou paysan. Et le soir de ses noces avec elle, il meurt. Elle est chantée ici par Zal Sissoko, qui est également à la cora. La DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. En 2014, s'est tenue Yango, la première biennale d'art moderne à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La deuxième édition est en préparation. Pour en parler, nous retrouvons Sinzo Anza, artiste et écrivain très attaché à la capitale congolaise et qui participe à l'élaboration de l'événement. Pour nous accompagner, une improvisation de Hugues Mbo-Ougenboa à la guitare et Sarah Solo aux percussions pendant une réunion de préparation en novembre dernier. Vous me corrigez si je me trompe, vous êtes bien le directeur artistique de Yango, la Biennale d'art moderne de Kinshasa ?
Alors, ouais, il m'avait été demandé par Kiripi Katembo donc de mettre en place les éléments pour organiser la deuxième édition de la Biennale, parce qu'il avait été lui-même organisateur et donc concepteur de la première édition. Et il s'agit d'une Biennale, effectivement, qui est organisée par les artistes, par des artistes de Kinshasa, dont le comité détermine un directeur artistique au sein des membres pour que ce directeur formalise plus ou moins les besoins du moment, les attentes, et fixe le cadre qui va recevoir des commissaires qui peuvent être locaux ou étrangers, mais de manière à ce que tout le monde s'assure de l'efficacité finalement du projet. Et donc moi j'ai formalisé les choses pour la deuxième édition de la Biennale, mais en ce moment il y a des commissaires qui travaillent avec l'équipe exécutive pour aboutir à cette deuxième édition. Et donc c'est un projet qui est en cela dynamique, parce que il sera question à chaque fois de voir au sein de la scène artistique de Kinshasa ou de la scène intellectuelle qui formalise les éditions les unes après les autres avant d'y inviter finalement les autres intervenants, les curateurs, les artistes et les professionnels.
Kinshasa est une ville énorme, on en a parlé tout à l'heure, vous me disiez l'espace qu'elle apportait et l'entremêlement des corps et le bruit et l'activité de la ville. Est-ce que c'est un terreau spécialement intéressant pour l'art, à votre avis, et l'art sous toutes ses couleurs, j'allais dire, vraiment, que ce soit art plastique, visuel, musical, littéraire ou autre?
Je pense que absolument, on peut considérer cette ville à partir du moment qu'il y a beaucoup de monde. C'est l'une des villes les plus importantes de la planète, et que ces personnes sont jeunes, dynamiques et à l'esprit souvent ouvert, parce que ce sont des personnes encore en train d'apprendre, en attente en tout cas, en demande de connaissances, de perspectives, etc. La ville est effectivement un terreau pour toute forme d'expression, toute forme de création, toute forme de discours, toute forme de proposition. Et donc, je pense que Kinshasa est, de ce point de vue-là, du point de vue de la nature de sa population, de l'importance même de sa démographie, un des lieux les plus centraux pour l'art et pour son développement.
S'il y avait une chose que vous pouviez souhaiter, si vous aviez un vœu à faire pour la République démocratique du Congo en 2022, quel serait-il, Sinzo Hanza?
Je pense que mon vœu pour la République démocratique du Congo depuis toujours, c'est que, en tout cas, tout le monde se rende compte dans ce pays de la merveilleuse puissance de l'imagination que les Congolais peuvent avoir, et que le pays investisse dedans. Le pays à la fois en tant qu'État, je veux dire, mais aussi tous les partenaires privés ou tous les investisseurs privés dans cet espace-là investissent dans l'imagination. Je pense que un espace comme le Congo ne pourrait sortir des marasmes dans lesquels il se trouve qu'en investissant dans l'imagination de sa population, qui est une imagination débordante, inépuisable et souvent très belle et très pertinente.
C'était le multi-artiste Sinzo Hanza de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Pulsation, et bon vent à vous et avec tous vos projets.
Au revoir, Cindy.
Merci, au revoir.
Coup de projecteur.
Le 17 janvier 1991, il y a eu 22 ans hier, débutait une des opérations militaires les plus marquantes depuis la Seconde Guerre mondiale. En guerre contre l'Irak depuis août 1990, la coalition internationale, regroupant 35 États sous commandement des États-Unis, déploie une attaque baptisée « Desert Storm », en français « Tempête du désert ». L'opération est mandatée par les Nations Unies. Elle commence par des bombardements massifs. Les navires de guerre américains lancent des missiles tandis qu'une centaine de milliers de sorties aériennes sont effectuées. Au total, plus de 88 000 tonnes de bombes larguées en un mois détruisent les infrastructures de l'armée de l'air irakienne. Saddam Hussein, le dirigeant irakien, propose alors un cessez-le-feu le 22 février, rejeté par les alliés qui annoncent toutefois que les forces irakiennes qui battent en retraite ne seront pas attaquées. Un retrait qui permet à la coalition de lancer dans la nuit du 23 au 24 février la seconde phase de l'opération sans grand danger. La phase terrestre, sabre du désert, dure à peine une centaine d'heures. Le 28 février, le président américain George Bush Sr. met fin à l'opération. Et deux mois plus tard, en avril 1991, la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations Unies met un terme définitif à la guerre du Golfe. Desert Storm, c'est aussi une chanson d'Alpha Blondie qui parle de la guerre du Golfe. C'est en sa compagnie que je vous laisse. Merci de votre attention. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Excellente suite de programme sur la DW. Salut. Ne tirez pas.